BPM, élection régionale 2021.
Bienvenue sur BPM. Si vous venez de nous rejoindre, les élections régionales auront lieu le 20 et le 27 juin prochain. À cette occasion, BPM vous propose jusqu'au 18 juin des émissions spéciales. Les candidats pour les élections régionales d'Île-de-France viendront répondre à nos questions. Aujourd'hui, pour cette première émission, nous accueillons Fabiola Conti, candidate tête de liste de Volt aux élections régionales d'Île-de-France. Fabiola Conti, bonjour.
Bonjour Pierre.
Vous êtes franco-italienne, vous êtes en reconversion professionnelle, responsable de Volt en Île-de-France donc, et vous êtes engagée dans Volt depuis environ 2 ans. En 2020, vous vous êtes présentée au municipal à Paris dans le 9e arrondissement. Mmh. Vous menez donc la liste Île-de-France, Île-d'Europe. Durant cette émission, nous allons aborder plusieurs volets des compétences de la région. Tout d'abord, rapidement, est-ce que vous pouvez nous présenter Volt dans un premier temps et pourquoi vous avez choisi de vous présenter ?
Tout à fait. Alors déjà, merci pour cette invitation. Je tiens à dire que la liste est menée par Volt, mais elle rassemble plusieurs mouvements citoyens ainsi que des membres de la société civile. Dans les mouvements citoyens, nous avons Volt, que je vais vous présenter à la fin, Pace, le parti des citoyens européens, Nous citoyens et À nous la démocratie. Tous ceux qui nous a notre fil conducteur est la démocratie citoyenne et le pro-européisme. Volt est un parti pan-européen qui est né en 2017 suite à la sidération du Brexit, du référendum du Brexit, pour pouvoir approcher l'Europe des citoyens et les citoyens de l'Europe.
On aborde le premier volet des compétences de la région, les transports. Vous souhaitez favoriser l'utilisation des transports en commun. Comment comptez-vous vous y prendre ?
Alors nous savons qu'il y a beaucoup de propositions sur la favorisation des transports en commun. Nous, ce qu'on compte faire, c'est les rendre plus accessibles. Qu'est-ce que ça veut dire, les rendre plus accessibles ? C'est pas forcément que d'un point de vue monétaire, donc d'un point de vue de gratuité des transports, mais aussi tout simplement de accessibilité. Donc comment une personne se rend de chez soi au transport en commun. Maintenant, par exemple, si vous allez dans Paris en journée, vous voyez qu'il y a énormément de voitures, malgré les réseaux de transport en commun est très étendu. Et cela est dû aux personnes qui n'ont pas d'autre choix, n'ont pas le choix que de prendre la voiture. Et du coup, ce que nous, on souhaite faire, et ça fait partie des best practices de Volt, de regarder dans les autres villes européennes qu'est-ce qui se fait, c'est de faire comme on fait à Londres, dans le Grand Londres, et d'installer des parkings gratuits avec un ticket de métro ou de transport en commun dans les endroits qui le nécessitent les plus. Cela laisserait le choix aux citoyennes et aux citoyens, donc aux franciliens, de pouvoir déposer leur voiture gratuitement et de pouvoir avoir accès au transport en commun comme toutes les personnes qui ont en bus de métro en bas de chez soi.
Et alors comment vous allez rendre les transports plus durables, plus écologiques ?
Alors déjà, en favorisant l'utilisation, ça c'est une première chose qui va dans ce sens. Et après, nous avons plusieurs mesures. Nous avons construit notre programme avant, par exemple, que la mesure nationale soit prise d'interdire les vols de moins de 45 minutes entre des villes. Et du coup, en favorisant les déplacements urbains via train, et non pas des avions pour des courtes distances. Et pour cela, on a tout un plan d'amélioration des gares franciliennes pour dégourdir la ville de Paris. Maintenant, on sait très bien que l'Île-de-France est très parisienne-centrique. Et notre projet est de la rendre vraiment une région à opportunités égales sur tous les territoires, et d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue de transport.
Toujours sur le thème des transports, mais en ajoutant l'aménagement du territoire, vous désirez améliorer et agrandir les gares franciliennes. Alors, est-ce qu'il y a assez de place pour les agrandir ?
Alors oui, tout à fait. Il y a il ne faut pas forcément penser à un agrandissement d'un point de vue du territoire, mais aussi en termes de fréquence. Il y a des trains qui passent par des gares franciliennes, mais qui ne s'arrêtent pas. Je fais un exemple vers Roissy. Il y a plein de trains qui passent sur des rails pour aller vers l'Europe, vers l'Allemagne, etc., qui passent dans des gares déjà existantes et ils s'y arrêtent pas. Et les personnes qui habitent dans ces gares de banlieue sont obligées de venir à Paris et d'ajouter souvent une, 2 heures à leur trajet, alors que c'est totalement innécessaire. Et on sait très bien que centraliser tous les transports à Paris, c'est pas une chose ni soutenable ni démocratique.
On continue avec l'aménagement du territoire. Pourquoi voulez-vous redéfinir les besoins des transports urbains ?
Alors, les besoins des transports sont, il faut les redéfinir en fait en fonction des nouveaux centres de recherche et urbains qui existent dans Paris. Je vais vous faire un exemple très concret. Rungis. Rungis, c'est le marché de l'Île-de-France, un des plus grands en fait de d'Europe. Et on n'a pas une gare, on n'a pas des transports qui sont viables. Toutes les personnes, c'est un pôle qui mobilise énormément de travailleurs et de travailleuses, et toutes ces personnes sont obligées de prendre la voiture pour y aller. Comment c'est possible que dans un plan urbain, cette gare, cette ville ne soit pas prise en compte dans un plan plus global? La même chose, ça arrive pour plein d'universités, plein de grands facs au-delà de Paris, qui ne sont pas pris en compte dans le plan des transports urbains. Et nous, on souhaite que cela soit réévalué en fonction des nouvelles exigences des franciliennes et des franciliens.
On poursuit avec l'environnement. Vous voulez, entre autres, améliorer l'isolation des bâtiments publics. Détaillez-nous un peu cette proposition.
C'est pas que l'isolation, c'est plus large, tous les choix des matériaux. Alors, on a beaucoup d'incentives et de primes pour les privés quand ils font des appartements, des maisons avec des mesures écologiques. Mais l'État, et les régions et les départements devraient être les premiers à montrer l'exemple. Il y a un exemple d'un lycée de Poitiers qui a été construit avec des matériaux d'innovation et écologiques et qui montre l'exemple que les choses sont faisables. Au-delà de ça, on sait bien que c'est possible d'installer des panneaux photovoltaïques sur des toits, chose qui n'est pas exploitée en ce moment. On commence à le faire un peu dans Paris, on commence à le voir. Mais en région d'Île-de-France, c'est encore loin d'être un coefficient satisfaisant, et aussi l'isolation, mieux isoler les bâtiments, ça veut dire les réchauffer moins, utiliser moins de gaz et moins de chauffage pour une consommation plus écologique.
Toujours en matière environnementale, pourquoi promouvoir l'exploitation du biogaz ?
L'exploitation du biogaz, c'est quelque chose que on n'a jamais entendu par les autres programmes, donc c'est extrêmement intéressant. On a une cellule d'ingénieurs du biogaz au sein de Volt Europa qui ont proposé cette mesure dans plusieurs villes européennes. Et nous croyons que non pas le biogaz pour le biogaz, mais le biogaz arrive des déchets ménagers. Les déchets ménagers sont une grande source de déchets au niveau de l'Île-de-France. Et on sait très bien que l'Île-de-France est un territoire très exploitable d'un point de vue agricole. Et il n'est pas exploité comme il faudrait, parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de céréales qui partent ailleurs, alors que la culture maraîchère, elle est un petit pourcentage. Mais l'idée, ça serait d'avoir un circuit circulaire, court, des déchets ménagers qui pourraient enfin donner l'énergie dont l'Île-de-France a besoin sans qu'on soit dépendant énergétiquement d'autres de nos voisins. Voilà.
Vous indiquez dans votre programme vouloir reprendre les meilleures pratiques d'autres villes d'Europe pour la construction d'infrastructures à usage multiple pour les Jeux Olympiques de 2024. Quelles sont ces pratiques ?
Alors, on voit souvent que quand il y a des manifestations sportives de cette ampleur, comme les Jeux Olympiques en 2024, on est ravis d'avoir Paris dans les Jeux Olympiques, mais souvent on construit des bâtiments qui ne sont après plus utilisés ou qui sont mal exploités. L'idée est de faire des bâtiments à usage multiple, donc qui peuvent être utilisés avec plusieurs fonctions. On l'a vu cela, ça a été fait très bien à Londres lors des Jeux Olympiques, à Milan lors de l'exposition universelle. Ils ont créé, là où il y avait les logements des athlètes, tout ce qui était des centres intergénérationnels comme des lycées et des centres culturels pour retraités. Ce qui pourrait, en fait, on peut envisager de construire les bâtiments non pas que pour un usage unique, donc fini défini qu'est seulement pour les Jeux Olympiques, mais en fait, on fait tellement de choses intéressantes autour de nous que ça vaudrait le coup d'y réfléchir et de faire quelque chose d'une manière plus durable. Non pas pour construire un bâtiment qui va être un bâtiment qui va faire de la pub et ça va être génial pendant les Jeux, mais qui après va être mis de côté et jamais plus exploité. C'est ni bénéfique pour l'argent qui est investi, ni surtout pour les personnes locales qui doivent voir un bâtiment après mis en désuse.
On passe maintenant à l'enseignement et notamment au lycée. Vous souhaitez promouvoir les jumelages et les échanges scolaires des lycées franciliens avec les lycées de l'Union européenne Vous souhaitez également valoriser l'apprentissage des langues étrangères et élargir la présence des sections européennes dans les lycées franciliens des zones d'éducation prioritaire. Mais est-ce que ce ne sont pas des mesures qui existent déjà ?
Tout à fait, c'est déjà des mesures qui existent déjà, mais elles ne sont pas démocratisées. Alors je pars de la partie de jumelage. On sait très bien que pas tous les élèves ont accès ou ont les mêmes accès à ce type d'initiative. Et c'est là, n'est pas juste, ça, c'est pas équitable en fonction des personnes qui peuvent se le permettre et des personnes qui peuvent pas. Dans notre cas, ça serait la région qui prend en charge le montant de ses déplacements. Pour la partie des langues, on est en dessus en France de la moyenne des européennes des langues étrangères parlées. Et on sait très bien qu'apprendre une langue étrangère quand on est jeune, de un, c'est plus facile. Et des deux, ça ouvre des portes à des opportunités internationales différentes. Non pas forcément qu'on doit partir et quitter la France pour aller travailler ailleurs, mais parler une deuxième langue correctement sur le territoire français, ça permet d'avoir une réussite différente. Et les jeunes sont les grands oubliés de beaucoup de programmes. On l'a vu même avec la Covid. Et donc, nous, on veut les remettre au centre du débat politique.
Toujours pour les lycéens, pourquoi est-ce que c'est important pour vous de promouvoir l'instruction et la formation numérique ?
Le numérique, pour nous, c'est une autre langue. C'est une langue additionnelle. Et on trouve que cela n'est pas assez exploité. Et ça peut ouvrir également, comme des langues étrangères, énormément de portes au niveau professionnel et personnel. Et on voit que c'est de plus en plus répandu. Et c'est vraiment la langue du futur pour nous.
On poursuit avec le développement économique. Vous souhaitez construire un pôle incubateur européen d'entreprises expertes spécialisées en green tech, l'économie autour de l'écologie. Quel sera le fonctionnement de ce pôle et quels sont ses objectifs ?
L'objectif de ce pôle, c'est de rendre l'Île-de-France plus écologique. Et en fait, ça répond un peu au besoin de créer un circuit de biogaz court. Il va falloir des têtes qui y travaillent. Où est-ce qu'on les trouve ? On les trouve dans l'incubateur GreenTech. Il va falloir des personnes qui s'interfacent avec des experts de tout le monde. Quelles langues ils vont parler ? Les langues qu'ils ont apprises au lycée. Donc l'idée, c'est un peu la poursuite de ce qu'on met en place au niveau du territoire et au niveau de l'instruction, qui après puisse avoir une sortie d'un point de vue développement économique.
On parle maintenant de tourisme. Vous souhaitez évidemment soutenir le tourisme francilien. Par quels moyens ?
Alors, le tourisme, à la date, est plutôt parisien en Île-de-France. Donc, à nouveau, très parisien-centrique. Nous, on veut exploiter le tourisme cyclable de l'Île-de-France. Moi, je suis cycliste, par exemple, et je l'ai fait plusieurs fois. Il y a énormément de pistes cyclables, des paysages, des brasseries et des coins qui sont pas très exploités. Et nous, on voudrait mettre en place un chèque vacances à utiliser en Île-de-France pour les franciliens et par les franciliens.
Alors, vous désirez plus de transparence et de visibilité, par quels moyens ?
La transparence et la visibilité, pour nous, sont au centre de la démocratie citoyenne. À date, par exemple, si vous allez sur le site de l'Île-de-France, il n'y a pas moyen de savoir quels sont les appels à projets, les appels d'offres que vous avez en Île-de-France, quel est combien de fonds ont été dépensés ? Comment, quel est le rétro-planning, etc. Et nous, on trouve que c'est un droit des citoyennes et des citoyens de voir, d'avoir cette transparence. Et du coup, on voudrait mettre en place une plateforme qui permet l'accès à ces informations, ainsi que un email et un numéro de téléphone pour être plus inclusif, parce que pas tout le monde sait utiliser Internet de la même manière, et que les citoyens aient cette information accessible facilement. Chose qui n'est pas le cas à date.
Dernière question avant de parler de la raison d'être de votre candidature. En matière d'emploi et de formation professionnelle, quelles sont vos propositions ?
On voit qu'en matière de formation professionnelle, il y a beaucoup de choses qui sont dites et sont faites, mais il n'y a pas vraiment un résultat. Donc, on a vu qu'il y a des professions de santé qui sont mises en place, il y a certaines choses qui sont... promu, mais il n'y a pas d'embauche après. Et même en formation professionnelle, on a beaucoup de monde qui après reste au chômage. Donc notre idée est de mettre en place plus de raccordement entre l'État et la région pour que la formation professionnelle soit issue des embauches et non pas tout simplement d'une formation, notamment dans tout ce qui est protection civique, et de créer des métiers du futur, parce que ça, c'est pas la première pandémie auquel on aura affaire. Et donc, par exemple, créer des rôles qui permettent de intervenir lors des conditions de pandémie ou de crise sanitaire beaucoup plus rapidement au niveau local.
Dernière question, Fabio Laconti, vous proposez donc une candidature citoyenne. Comment mettre en place une participation, une collaboration citoyenne ?
Alors, la collaboration citoyenne, on en a entendu parler énormément et dans tous les sens, et ça a perdu un peu sa valeur, parce que quand on fait des promesses aux citoyens et aux citoyennes, et on leur dit, on fait une convention et après, il n'y a rien qui se passe derrière. Nous, on trouve qu'il y a un moyen important de s'engager d'un point de vue législatif là-dessus, que c'est le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne, qui est différent de la convention, non que d'un point de vue qui est des modalités, mais aussi d'un point de vue législatif. Ça veut dire que on se doit l'obligation après de prendre en considération les choses qui ont été dites lors de ces référendums. Voilà.
Fabio Laconti, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup Pierre.
Cette émission sera rediffusée à 13h et à 19h. Demain à 7h30, nous recevrons Lionel Brault, candidat tête de liste de France Démocratie Directe pour les régionales d'Île-de-France. Excellente journée à l'écoute des programmes de BPM.